Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue, actualité économique du jour. Le mot productivité va être le mot d'ouverture de cette émission. Les bonnes nouvelles sur le retour des gains de productivité en Europe, tandis que c'est l'inverse qui se produit actuellement aux États-Unis. Puis on essaiera de décrypter ce volontarisme incroyable de l'exécutif sur le budget 2026. Alors, ce matin, alors Plosier me disait, mais vous êtes un éternel optimiste, vous voulez toujours y croire. On a l'impression que cette fois-ci, c'est la bonne sur la réduction des dépenses et pas le recours à l'éternelle hausse d'impôts ou hausse d'impôts qui ne dit pas son nom. On a l'impression que c'est la bonne sur la volonté de réduire les effectifs de la fonction publique, que cette fois-ci, on va vraiment y aller sur la rationalisation des agences et des opérateurs d'État. Donc voilà, ce qu'on serait capable de réussir, là où on a généralement échoué, sortir de l'impasse budgétaire. Si on reprend les mises en garde d'Amélie de Montchalin dans la presse dominicale, il est temps, dit-elle, parce qu'elle redoute que nous soyons devant un risque de crédit qui pousserait le FMI à venir taper à notre porte avec un risque de mise sous tutelle. On va décrypter d'ailleurs cette histoire de FMI qui serait aux portes de Paris, parce que c'est absolument pas comme ça que les choses se passeraient si nous connaissions une tension de crédit. Et puis il y a ces négociations qui se poursuivent à Londres entre la Chine et les États-Unis. Il s'agit de clore la guerre commerciale. Le premier round avait lieu à Genève. La question des terres rares est centrale. On commence à voir aujourd'hui des unités de production américaines qui sont à l'arrêt, faute d'être équipées en terres rares, ces minerais critiques pour la production industrielle, dont la très grande majorité est exportée par la Chine. Bonjour Patrick Bertrand.
Bonjour Nicolas.
Bienvenue, directeur général opération d'Olnest, le family office de Jean-Michel Aulas. Christian Parizeau, bonjour.
Bonjour.
Économiste, conseiller auprès d'Aurel BGC. J'arrive à affiner mon programme tous les matins parce que, enfin, quand Christian vient, il m'envoie les trucs d'actu qu'il a observé pendant la nuit. C'est le seul de mes invités qui se lève à la même heure que moi, je précise. Christian Parizeau, j'ai pas envie de dire que vous faites des grasses maths, Christian Parizeau.
Non, Christian Poyon. On se couche plus tard, c'est tout, voilà. Les dirigeants d'entreprise.
C'est à peu près ça. Non, attendez, un jour, quand même, il me manquait un invité un matin. J'ai appelé Christian Parizeau, je crois, à 5h30 du matin. Je lui ai dit, Christian, petite émission ce matin, c'était envisageable? Il m'a dit, oui, on peut l'envisager. Bonjour Christian Poyot.
Bonjour Nicolas Dose, et bravo pour votre optimisme permanent.
Non mais franchement, vous lisez Amélie de Montchalin, toutes les réponses qu'elle fait au JDD, c'est « je confirme, nous allons faire, je confirme, 40 milliards, le compte y sera, tant qu'il n'y est pas, nous travaillerons, je vais imposer aux administrations centrales de trouver les économies. Oui, les niches fiscales, si certaines sont inutiles, elles seront supprimées, d'autres pourront éventuellement être fusionnées. Oui, les agences et les opérateurs d'État, nous allons nous y atteler. Il y a un sujet de fonction publique, il faut trouver 100 000 postes dans la fonction publique. »
On signe où, là? On signe où?
Et surtout, Christian, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de hausse d'impôts l'an prochain pour préserver l'essentiel de la nation qui est la compétitivité de nos entreprises. Et la politique de l'offre initiée en 2017 sera un guide éternel.
Bah, la politique de l'offre a été réelle quand même ces dernières années. Il y a des tas d'autres choses qui sont beaucoup plus critiquables, mais la politique de l'offre, globalement, a été comme assez forte, pour être honnête.
On signe, Patrick Bertrand.
Très bon signe. Je crois que nous en avions parlé. Si vous utilisez des outils d'IA, oui, et que vous demandez quelles sont les mesures communes qui ressortent des rapports sur la dépense publique des 10 dernières années. Et j'ai utilisé 3 ou 4 outils, pour être à peu près certain. Eh bien, vous avez un quarté, là, petit 1. Première mesure, réduction des effectifs. Deuxième mesure, rationalisation des dépenses sociales. Troisième mesure, report de l'âge de départ à la retraite. Quatrième mesure, simplification. That's it. Alors, merci Amélie de Montchalin d'avoir utilisé des outils modernes pour avoir bien compris qu'il n'y avait plus besoin de rapports. Il y en a eu une dizaine de toutes origines, privées et publiques.
Plus que dix, à mon avis.
J'ai listé à peu près une dizaine, mais si tu cumules tout ce qu'a fait la Cour des comptes et le Haut Conseil aux finances publiques, effectivement, ça fait beaucoup plus.
Quand Patrick était venu, je lui avais dit qu'il faut absolument m'envoyer le bilan de ce tour d'horizon de ce que les IA proposaient. Et alors, l'idée, c'était que vous aviez pris dans les conclusions ce qui était commun.
Commun.
Voilà. Commun à l'ensemble des rapports.
Voilà, c'était
fonction
là, les quatre que je viens de citer. Quatre
âge communes. Retraite,
dépenses sociales et simplification administrative. Ouais. Donc, il n'y a pas que des sujets financiers.
De toute façon, le point principal, c'est le financement de la protection sociale en France.
Oui, mais alors.
C'est ça, c'est l'alpha, l'oméga, tout ce que vous voulez, fonds dans la pièce, etc.
Je dirais que c'est ce qui est le plus à risque à court terme.
Christian,
parce que ce qui a dérapé depuis le Covid, c'est vraiment ça. Ouais. Et on peut pas, c'est pas soutenable. Il faut quand même qu'à un moment donné, sans remettre en cause la sécurité sociale, parce que tout de suite, on va hurler, on remet en cause la sécurité sociale, mais aujourd'hui, on a une dérive des dépenses qui est deux fois supérieure à la croissance du PIB. Et ça, c'est pas tenable.
Une dérive des dépenses deux fois supérieure à la croissance du PIB.
Donc, ça veut dire qu'on va dans le mur. Mais faut être là-dessus, faut prévenir les Français. Il y a un moment donné où les dépenses de santé aujourd'hui ne sont pas soutenables. Donc à un moment donné, je pense que en priorité, avant de parler de
réduire.
Non, non, je parle de l'aspect purement social santé là. Hein. Je parle vraiment
de la sécurité. Si vous prenez la Cour des comptes,
la retraite, c'est un paquebot. Oui. C'est un paquebot, ça va arriver, c'est quelque chose qui met du temps. Mais à très court terme, je dirais à horizon 2 ans, faut qu'on redresse les dépenses de santé. Oui, mais ça, je pense que la Cour des comptes a fait un très bon travail. Il a assez montré, alors en voulant marketer un risque de financement que
quand la Cour dit que la CADES est arrivée à son plafond, qu'elle ne peut plus donc participer au financement avec la capacité de d'émettre des obligations notées avec la note nationale, et que la Cour des comptes commence à parler d'un risque de défaut de paiement de la sécurité sociale, vous prenez pas ça au sérieux?
Non, parce qu'il y a toujours des façons d'agir. L'État agira et fera en sorte que ce que. Mais après, ça reviendra sur la dette de l'État.
Oui.
Mais le fond de l'histoire n'est pas là. Enfin, je comprends la communication de la Cour des comptes. Elle a raison. Elle est dans son rôle. Elle montre un risque. Mais le vrai risque aujourd'hui, c'est qu'on a quand même un rythme de croissance des dépenses de santé qui est pas soutenable. Et ça, c'est quand même un vrai problème.
Oui,
et il faut agir très rapidement là-dessus.
D'accord. Mais la conclusion, c'est pas dire qu'on va le supprimer. Hein, on est bien d'accord.
Parce on va pas supprimer
les dépenses de santé.
On a une population qui vieillit, on en a des besoins, ça c'est évident. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il faudrait retrouver quasiment le rythme d'avant le Covid.
Oui,
c'est
oui,
plus
oui.
ça qu'on parle. Donc on vivait, est-ce qu'on vivait si mal que ça avant le Covid?
Pas du tout.
Voilà. Donc
et après, quand on parle de la dette aussi en permanence qui a explosé, la majorité de l'augmentation de la dette est liée quand même aux dépenses de la protection sociale au sens large, y compris.
Oui, ça on est d'accord.
On est en permanence en train de critiquer l'action gouvernementale qui sur certains sujets est effectivement critiquable, mais c'est quand même ça le point principal. Donc il faut le marteler en permanence. Le coût de la protection sociale, au sens large, pour le coût sécurité sociale et retraite, doit être réformé de fond en comble et le plus rapidement possible.
La réforme pour la retraite, c'est le recul de l'âge. La réforme pour la santé...
On a vu le rapport du corps, là, voilà, qui pour une fois... Et Gilles Berset est quelqu'un qui me semble, comment dire, non critiquable. C'est quelqu'un qui a une vision...
Il a été bien critiqué par les syndicats ces dernières
années. Une vision honnête et non subjective.
Parce que quand Patrick dit rationaliser la dépense sociale, c'est sympa le mot rationaliser. Mais après, quand vous commencez à voir qu'est-ce que c'est qu'une rationalisation de la dépense sociale et que vous listez les perdants, c'est là où politiquement ça devient très chaud.
Ouais, alors, quand on parle de la santé, rationalisation des dépenses de santé et simplification administrative, ça va de pair, puisque on évoque très souvent le fait qu'il y a une proportion de personnel non productif dans le secteur de la santé, beaucoup plus importante en France par rapport aux autres pays. Et d'ailleurs, ça nous ramène au sujet du premier point, de la réduction des effectifs de la fonction publique. C'est intéressant, cette étude de la progression de la fonction publique entre 97 et 2022.
C'est Fipeco, ça.
Plus 23%. Alors que la population n'a
14.
Augmenté que de 14%. Ouais. Et à l'intérieur de ces 23%, c'est pas du tout l'administration centrale.
Non,
c'est collectivité territoriale, 46%, et hospitalisation, 36%. Et d'ailleurs, ça nous ramène au sujet de la productivité. Alors, est-ce que ce chiffre, vous allez peut-être le valider?
On va revenir sur le programme prévu en ouverture.
Voilà, productivité horaire qui augmenterait de 0,5% par an, ça permettrait d'économiser 30 000 personnes dans les effectifs publics chaque année.
Non, mais si déjà les gens travaillaient 35 heures et pas 32 heures...
Mais on est d'accord.
Bon,
mais productivité horaire, vraiment, il faut l'augmenter, et ça rejoint dans la productivité horaire, il y a le temps effectif de travail.
Partons donc sur cette histoire d'effectifs de la fonction publique. Vous l'avez dit vite, mais je rappelle ces chiffres de Fipeco. Quand on écoute le Bercy, il nous parle que de la fonction publique d'État, les ministères, les administrations centrales. Sur la période 97-2022 par Fipeco, la hausse elle est de 7%.
7.
La population totale, c'est plus 14. Le privé, pour l'accroissement de la population totale, les embauches dans le privé, plus 18. Et effectivement, la territoriale, plus 46.
Oui, ça veut dire que... C'est scandaleux, oui, mais... on n'a pas le droit d'en
36,
parler, et dès qu'on en parle, on a l'impression qu'on prend en otage les collectivités territoriales. Mais il faut quand même être conscient, il y a un certain nombre de choses qui devraient rester centralisées. Vous avez, je ne sais pas, une personne qui gère en France un sujet, si vous la décentralisez comme il y a 13 régions, vous allez embaucher 13 personnes, on est d'accord.
Voilà.
C'est quand même ça le raisonnement. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui doivent dépendre des collectivités territoriales? Certainement, mais pas toutes. Et en tout cas, des fonctions centrales ou de gestion devraient être centralisées. Sinon, on multiplie par 13 toute action.
Exactement. Et effectivement, on parle de chiffres et d'effectifs, mais il faut aussi s'intéresser, alors c'est plus compliqué, à la source, aux causes. Et on sait, le rapport Draghi l'a mentionné une fois de plus, c'est d'ailleurs dans les mesures que j'évoquais, la quatrième, c'est simplification administrative, c'est le millefeuille, si on parle du territoire, le millefeuille territorial, c'est l'ensemble du dispositif de réglementation qui génère ce besoin. Mmh. Et d'ailleurs, il y a un économiste, je crois que c'est aux alentours des années 60, hein, 1950 ou 55, les fameuses lois de Parkinson, qui ont parfaitement analysé ce sujet, qui est que plus on met de la réglementation, plus on met du people, et plus on met du people dans un temps long, et plus on a besoin de temps pour réaliser ce qu'il doit faire, et donc on augmente les people. Oui, ces lois de Parkinson, elles sont absolument magnifiques, parce qu'elles ont été écrites il y a 70 ans.
Il y a aussi un aspect sur le plus 46% en 25 ans des effectifs de la fonction publique territoriale, qui est lié au fait qu'on a utilisé l'embauche publique comme traitement social du chômage. On l'a pas utilisé pour répondre à des besoins, on l'a utilisé pour donner un emploi à des gens qui n'en avaient pas. Et ça, tout le monde le reconnaît, pas haut et fort.
Pas vraiment, parce que quand on les écoute, c'est l'État a redistribué des tâches et c'est pour ça qu'ils ont dû embaucher. Sauf que d'un côté, ça a augmenté de 7 et l'autre
d'accord,
de 46.
Mais même les collectivités, les collectivités ne vont pas le reconnaître, mais quand vous posez la question à des économistes, même des économistes de gauche, ils admettent qu'effectivement, l'embauche locale a été un outil de traitement social du chômage et que ça n'était pas la vocation a priori. Mais puisqu'on est parti sur cette histoire, est-ce que vous avez envie de croire que cette fois-ci c'est la bonne? Et moi, je vous dis ça pour deux raisons. Parce que quand vous prenez le taux d'intérêt et le taux de croissance, maintenant le taux d'intérêt est sensiblement supérieur au taux de croissance. C'est un signe de bascule qui pose d'ailleurs la question de la soutenabilité, pas que des dépenses sociales, mais de l'ensemble de la dette publique. Et le remboursement des intérêts de la dette est désormais la première dépense de l'État. Des choses nouvelles, des choses qui n'étaient pas le cas il y a encore 12 mois. Est-ce que cette pression peut conduire cette fois-ci l'exécutif à vraiment agir?
Moi, je trouve qu'il y a quand même dans le débat public ou dans le sentiment de l'opinion nationale un changement sur certains sujets. Je peux prendre la capitalisation, par exemple, qui a été très longtemps un sujet, mais alors totalement voué aux gémonies, horrible, etc. Bon, on le voit quand même apparaître de plus en plus. La CFDT a dit globalement qu'elle était prête à y réfléchir. Enfin, on voit quand même un ensemble de sujets où il y a un changement de mindset progressif d'une partie. On va mettre de côté les extrêmes qui sont, de toute façon, dans un délire total. Donc, alors, je suis comme vous, je suis un optimiste permanent, voilà, donc évidemment. Et puis, force est de constater, quand même, on dérive de plus en plus. On ne va pas comparer à 58, mais enfin, 58, c'était un peu la même chose aussi, où on était en situation financière qui était totalement catastrophique. Il a bien fallu faire des réformes dures. Donc, à un moment donné, elles devront arriver, ces réformes. Encore une fois, c'est sous quelle forme et dans quel délai. Donc, oui, je pense que ça va arriver. Alors, est-ce que c'est en 6 mois avec le risque de à nouveau dissolution, des choses comme ça, ou est-ce que c'est 2027? Mais de toute façon, ça va arriver. Et encore une fois, parce qu'il y a un changement d'état d'esprit progressif, je pense, d'une partie de la population.
Moi, je pense il y a aussi un autre point qu'il faut souligner, c'est que les Français ont compris les choses. Je vous prends juste un chiffre. En France, le taux d'épargne des Français, c'est 18%. L'État creuse les déficits, les Français épargnent. Alors, je ne vais pas vous faire l'équivalence ricardienne de base en vous disant ça, mais c'est une belle illustration, en tout cas, de ça. C'est de dire qu'aujourd'hui, les Français, clairement, n'ont pas confiance dans leur système de retraite. Puisqu'aujourd'hui, les Français mettent de l'argent dans l'assurance-vie. La priorité des Français, c'est d'acheter leur maison, d'être propriétaire pour être propriétaire à la retraite. Donc, les Français n'ont pas du tout confiance dans le système de retraite. Donc, moi, je pense qu'il y a un vrai problème de décalage. On dit que la retraite par capitalisation, elle existe déjà en France. Mais pas officiellement, mais dans le comportement des Français. Quand les Français veulent être propriétaires, qu'ils ont un taux d'épargne à 18%, excusez-moi, ils sont en train d'épargner en partie aussi pour leur retraite. Donc tout ça montre que quand même les Français ont conscience des problèmes. Et le gros problème que l'on a aujourd'hui, c'est qu'une part de plus en plus importante est déléguée à l'État de notre consommation. Aujourd'hui, on a des impôts qui sont très élevés, mais ces impôts permet à l'État de vivre au-dessus de ses moyens, nourrit l'État, et du coup, on délègue une partie de notre consommation par l'État. Je vous prends juste un exemple, vous allez comprendre. Si c'est l'État qui gère la sécurité sociale et non pas une mutuelle privée, ça veut dire que c'est l'État qui dépense pour nous en sécurité sociale, mais sinon, on aurait une mutuelle privée et on consacrerait une partie de notre budget à cette mutuelle privée pour dépenser dans notre système de santé. Le gros problème aujourd'hui, je pense qu'il faut que l'État rééquilibre ça. C'est-à-dire qu'il faut redonner aux ménages la capacité de décider de leur consommation. Et donc, le taux d'épargne, à ce moment-là, va baisser. Et l'État, à son niveau, doit diminuer sa taille dans l'économie pour laisser plus de place au privé. Mais c'est un vrai changement qu'il faut parce que les Français... implicitement n'ont pas conscience, mais ont délégué à l'État une partie de leur consommation. Mais du coup, on se retrouve qu'on atteint une limite aujourd'hui.
Les Français n'ont pas délégué à l'État, ce sont des prélèvements obligatoires pour le travail.
Oui, mais je suis d'accord,
j'ai pas décidé,
c'est un consensus
social.
C'est un consensus social.
C'est-à-dire
qu'aujourd'hui, on nous dit ça serait très mal que les dépenses de santé soient gérées, par exemple, par des mutuelles ou des assurances privées. Ben non, on pourrait faire un système que les ménages les plus pauvres aient une aide de l'État pour payer leur mutuelle, que les plus riches payent à plein leur mutuelle, donc ça joue rien sur la répartition et ça pourrait être géré par le secteur privé.
Là, vous êtes en train de,
mais sauf que ça serait
de me décrire une forme de privatisation de la branche santé.
Il faut juste qu'une partie des dépenses de santé soit privatisée. Et ça permettrait aussi aux gens de se rendre compte que la santé, ce n'est pas gratuit. Parce qu'aujourd'hui, le gros problème, c'est qu'ils ont le sentiment que ça leur coûte rien d'aller voir le médecin. Or, là, si on leur disait votre mutuelle va augmenter si vous allez voir trop le médecin, bah là, déjà, ça régulerait un petit peu les choses.
Là, c'est révolutionnaire comme
non, mais
oui, tout à fait d'accord, mais pour revenir en arrière là-dessus,
ça n'empêche pas ça n'empêche pas qu'on peut aider les ménages les moins aisés et ça n'empêche pas une politique de redistribution. Ce qu'on nous oppose souvent, on nous dit, faut que ça soit l'État qui gère tout, parce que sinon, il n'y a pas de redistribution. Non, il peut y avoir un système d'aide et de redistribution, mais aussi, il faut maintenant, pour les dépenses de santé, il faut que les gens soient impliqués dans leurs dépenses de santé. Et c'est sa seule manière en maintenant. Parce que maintenant, on arrive à la limite du système, parce qu'on a l'image de la santé gratuite. Et c'est ça qui fait très mal aujourd'hui dans les dépenses de santé.
Sur 1000 euros de dépenses publiques, vous avez 260 euros de retraite et 210 euros de santé à peu près. Mmh. Donc on approche des 500 milliards sur 1000 euros de dépenses publiques. Ce que vous décrivez, c'est purement révolutionnaire. Alors, je sais ce qui se passera. Ça va tout de suite vriller sur le terrain politique. Vous allez avoir les organisations syndicales qui vont vous parler d'une santé à deux vitesses. En vous disant que ce sera comme pour le reste à charge zéro, celui qui a du reste à charge zéro, il a des lunettes de piètre qualité, et celui qui peut se payer des lunettes de belle qualité.
Moi, je pense qu'il faut savoir prendre les problèmes... Non, mais je suis d'accord, mais sur le fond, tout à fait d'accord, il faut prendre les problèmes dans le bon ordre. Moi, le problème numéro un qu'il faut traiter, c'est quand même les retraites, si j'ose dire. Où là, comme on le disait, il y a quand même un consensus qui arrive progressivement, où les gens se disent, oui, il va falloir bosser plus tard, et les jeunes générations se disent, de toute façon, si je n'économise pas aujourd'hui, j'aurai rien, effectivement, dans 40 ou 50 ans. Donc, on ne pourra pas tout faire en même temps, parce qu'effectivement, ça sera trop complexe, pas acceptable socialement. Donc, le point numéro un qui est de dire, déjà, non seulement on laisse à 64 ans, et puis on indexe finalement l'âge de départ à la retraite sur
la
durée de vie, ça serait un signal assez fort, et qui, à mon avis, peut passer dans les... qui est passé en partie d'ailleurs, difficilement, mais qui est passé en partie, et qui peut donner un signal fort aux entreprises, aux agences de notation, aux marchés financiers d'une manière générale. Donc, prenons les sujets un par un. Voilà, prenons les sujets un par un.
Allez-y, parce que je veux revenir sur la proposition un peu révolutionnaire.
Je partage, et effectivement, entre révolutionnaire et situation actuelle, la retraite est un très bon exemple, parce qu'on pourrait très bien, sans remettre en cause le principe général, d'introduire une dose de capitalisation. Donc, il y a probablement des marches possibles. Et puis, tout à l'heure, par rapport à votre question, c'est est-ce qu'on peut avoir confiance dans les mesures qui vont être prises. Alors, je ne suis pas comme Christian qui parlait d'optimisme ou de pessimisme, c'est plutôt pragmatisme, c'est-à-dire on voit le mur quand on est au pied du mur. Et donc, moi, je suis confiant parce qu'on est dans le mur.
Vous considérez qu'on est dans le mur ?
Ce que vous évoquez sur la perception des Français, je pense que tout le travail qui a été fait de communication autour des informations va permettre aux Français de comprendre que oui, le mur est là.
On va voir.
Donc,
je vais revenir.
Je suis confiant et il y a aussi les pressions extérieures, on en parlera tout à l'heure.
Exactement. Je vais revenir sur cette histoire de « on est dans le mur hein. ». Vous vous souvenez, Agnès Verdi avait écrit « On va dans le mur » et puis elle a publié récemment « On est dans le mur ».
On est dans le mur.
Je reviens sur ce que vous me disiez, Christian, parce que c'est un sujet monumental et qui mérite d'être entendu et entendu dans sa complexité et pas son résumé à l'emporte-pièce entre les anti et les pros. On imagine effectivement que, désormais, le remboursement de la santé est confié au secteur privé et qu'il y aura une sorte de caisse universelle jusqu'à un certain niveau de revenus pour permettre aux moins riches d'avoir accès à un remboursement de soins. Ça veut dire que finalement, le salaire net des personnes qui travaillent augmenterait, parce qu'on réduirait les cotisations sociales de manière importante, et ensuite, avec son salaire net, une fois crédité sur son compte en banque, on se paye l'assurance privée de son choix. C'est ça, hein ?
Oui, alors après, on peut aussi se faire un système comme on l'a actuellement, qui est une sorte d'assurance obligatoire, mais ça peut être totalement subventionné. L'État peut vous dire, je vous laisse 100 euros tous les mois pour souscrire une mutuelle, et vous choisissez la mutuelle que vous voulez. Mais pour des raisons aussi d'optimisation, il faut que tout le monde aille une mutuelle, sinon on aura un problème pour les soins, etc. Mais on peut mettre une mutuelle obligatoire, mais je vous laisse le choix. Oui. Et je mets en compétition les différents... Alors, je dis mutuelle, différents systèmes, on peut mettre en compétition les différents systèmes pour optimiser. Et ça laisse la place à de la concurrence. Mais derrière, encore une fois, ça ne veut pas dire ça, qu'il n'y a pas de solidarité.
J'ai compris.
Et ça
ne
veut pas dire que les gens sont moins bien protégés.
Contre, Nicolas, n'oubliez pas, oui, réduire les cotisations augmenterait le salaire net pour pouvoir souscrire à une assurance maladie privée. N'oubliez pas qu'au passage, ça augmente votre assiette d'IRPP et donc il faudrait aussi corriger ça. Parce que si vous augmentez le salaire net, mais c'est le sujet de la France.
Oui, ça, je suis d'accord.
Dès qu'on touche un indicateur,
ça c'est faisable.
Eu égard au taux, mais c'est faisable, effectivement.
Non, mais je trouve que la façon dont vous l'abordez, Christian, elle est rassurante, parce que dit comme ça, il y a de quoi provoquer de sacrées inquiétudes et angoisses dans une partie de la population.
Oui, mais parce qu'il y a un tropisme en France qui est de dire, dès que c'est privé, c'est sale, c'est pas bien, c'est de l'enrichissement, c'est charognard et compagnie. C'est ça le problème, si vous voulez. Alors, non pas que le privé soit parfait, le public n'est pas parfait non plus, et de toute façon, il faut qu'il y ait un système de solidarité nationale sur les gens les plus en difficulté. Il n'y a pas de débat par rapport à ça, mais il y a cette vision en France systématique du secteur privé qui est, de toute façon, ils font de l'argent et c'est pas bien.
Mais la clé dans ce que dit Christian, c'est qu'à ce moment-là, vous mettez en concurrence un univers qui aujourd'hui n'y est pas. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'aujourd'hui, avoir un double payeur pour un même acte, une partie assurance maladie, une partie mutuelle, c'est aussi un sujet qui mérite d'être questionné. Parce que c'est pas forcément totalement sensé.
Et vous avez vu sur la retraite le nombre de combinaisons, 1 milliard de combinaisons pour calculer les sujets de retraite, là, l'audition qui a eu lieu à l'Assemblée nationale.
Oui, mais de toute façon, que chacun qui nous écoute se demande s'il est parfaitement à jour sur ce à quoi il aura droit lorsqu'il sera à la retraite. Moi, le premier, je suis incapable de vous répondre. Et pourtant, j'ai toujours été salarié. Normalement, c'est relativement simple. On marque une pause.
Il y a quelques bons simulateurs.
Bon, je vous promets qu'on parlera de productivité. Christian Parizeau, j'avais dit qu'on ouvrait avec ça. Et puis bon, on est parti un peu en live. Juste avant, cette espèce de coup de semonce d'Amélie de Montchalin sur « Attention, le FMI pourrait arriver ». On va quand même regarder précisément ce que ça veut dire, précisément comment ça pourrait se passer. Mais on n'est peut-être pas totalement dans le mur. Seulement, quand je disais que le taux d'intérêt est supérieur au taux de croissance et que ça fait un petit moment, là, c'est un signal qu'il faut prendre très au sérieux. Et c'est un signal, en tout cas, qu'aucun économiste ne conteste, qu'il soit keynésien, pas keynésien, ce que vous voulez. À tout de suite.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Patrick Bertrand, le directeur général opération d'Olnest, le family office de Jean-Michel Aulas. Christian Parizeau, économiste et conseiller auprès d'Aurel BGC. Christian Poyot, PDG de Micropole. Avant d'évoquer la productivité, quand Amélie de Montchalin, Christian Parizeau, nous dit « Attention, ça pourrait être le FMI ». C'est juste un chiffon rouge.
Oui, alors déjà, qu'est-ce qui pourrait se passer pour faire appel au FMI? Il faudrait que la France aille les marchés obligataires, les gens qui vous prêtent tous les jours, décident de vous prêter à des taux d'intérêt qui sont plus soutenables. C'est ça qui fait la soutenabilité de la dette en France. C'est pas le fait, alors il y a le niveau d'endettement, mais c'est surtout à quel niveau vous empruntez de l'argent auprès des marchés et à quel niveau vous renouvelez votre dette, puisque l'État renouvelle tous les jours sa dette et ne rembourse pas le capital, mais il faut qu'il puisse faire face à la charge d'intérêt. Et donc forcément, si vous empruntez à 0,1%, à 2%, c'est soutenable, à 3%, ça l'est. Et puis, si d'un seul coup, les gens veulent vous prêter, mais qu'à 7%, et ben là, vous allez dans le mur. Et
Italie 2011.
Évident.
Voilà, Italie 2011.
C'est le cas classique. Donc, vous êtes dépendant des marchés. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, quelle que soit votre couleur politique, vous serez dépendant des marchés. Même Monsieur Trump, il a dû céder aux marchés obligataires quand c'est parti à en vrille sur les marchés obligataires américains. Donc, vous avez beaucoup de puissance en étant politique, mais vous êtes limité par les marchés. Il faut que les gens veuillent bien vous prêter. Et ce qui se passe, c'est que si un jour vous avez ce marché obligataire qui se referme, eh ben il va falloir trouver un financement pour l'État ou sinon vous arrêtez de payer les fonctionnaires, tout s'arrête dans le pays. Donc le seul moyen à ce moment-là, c'est d'avoir un mécanisme. Alors historiquement, c'était le FMI. Le FMI venait, vous donnez un plan de restructuration et vous prêtez de l'argent puisque le FMI a des réserves qui permettent d'aider les pays. Bon, ça c'est vrai dans les pays en voie de développement, mais c'est plus vrai pour nous puisque maintenant on est dans la zone euro. Et maintenant il y a un mécanisme qui a été mis en place après la Grèce, après ce qui s'est passé en Grèce, après ce qui s'est passé en Italie entre autres, hein, mais après quand on a eu la crise des souverains. Et donc ce mécanisme permet aujourd'hui à la BCE d'acheter votre dette, indirect, d'acheter votre dette sur les marchés, donc de vous financer quelque part, mais sous condition d'une restructuration. Donc, notre interlocuteur, si jamais on perdait la confiance des marchés, c'est pas le FMI, c'est la BCE et les instances européennes.
Le TPI, notamment.
Voilà, c'est différent. Alors, il y a différents mécanismes, différentes échelles de mécanismes, mais qui permet. Alors, ce qui est important et ce qui a vraiment changé par rapport à il y a un an, et ça, c'est quand même important, et ce qui joue beaucoup dans la confiance des marchés, c'est qu'il y a un an, c'était très compliqué pour la BCE d'intervenir massivement sur la dette des États. Pourquoi ? Parce que la BCE, à l'époque, elle luttait contre l'inflation. Et donc, d'un côté, c'est quand même compliqué d'envoyer un message, je monte les taux d'intérêt. Alors, elle commençait à baisser les taux au mois de juin, hein, mais elle était encore en pleine période d'inflation. C'était quand même difficile de dire, je mène une politique monétaire restrictive pour calmer la demande, pour essayer de ralentir l'économie. Donc, je fais tout pour finalement retirer des liquidités. Et puis d'un autre côté, bah parce que la France va mal, parce que la France a un problème de dette, je finance sa dette directement en créant de la monnaie. Vous voyez que le message est passé mal. Et donc, on pouvait se dire que quand même, il allait avoir un problème pour que qu'on ait ce filet de sécurité de la BCE pour être acheteur en dernier ressort. Parce que ce que veut un détenteur obligataire, il veut bien prêter à la France, mais il se dit, s'il y a un problème, qu'est-ce que je fais de mon obligation ?
Qui me la reprend ?
Qui me la reprend ?
Oui, voilà.
Et donc,
est-ce que le marché est liquide ?
Voilà. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est que l'inflation est partie. On est revenu en dessous de 2 dans la zone euro dans son ensemble grâce à l'énergie entre autres. Mais en gros, ouais, il y a quand même des bons signaux. En France, on est à 0,7 d'inflation. Donc, on est dans une situation beaucoup plus favorable. Et on sait que s'il y avait un problème budgétaire très fort, s'il y avait une défiance des marchés, la BCE maintenant a la capacité d'agir de manière plus importante et elle a pu à lutter contre l'inflation. Donc, ça laisse quand même, ça crédibilise, ce qui fait que de nouveau on a une sorte de protection entre guillemets sur les marchés, de se dire bah il y a quand même un prêteur en dernier ressort, si jamais ça va mal c'est la BCE. Donc on a quand même cet élément qui est venu depuis un an et qui redonne un peu de flexibilité. Mais attention, hein, parce que plus votre niveau de dette est élevé, plus vous êtes sensible au taux d'intérêt. C'est toujours le problème, hein. C'est-à-dire que c'est votre ratio dette sur PIB en lui-même, il veut rien dire, il dit pas si vous êtes solvable ou pas, mais il dit juste que un point de hausse de taux d'intérêt quand vous avez une dette à 110% du PIB, c'est pas du tout le même impact que quand vous êtes à 60% du PIB. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la France est beaucoup plus sensible qu'il y a encore quelques mois à la hausse des taux d'intérêt, et ça veut dire que grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire juste que le service de la dette va de plus en plus contraindre les dépenses publiques. Et donc ça, c'est moins d'argent pour l'enseignement, moins d'argent pour d'autres choses, hein, pour l'action économique, etc. Donc il ne faut pas sous-estimer quand même cet impact-là.
On est à 67 milliards de remboursement d'intérêts de dette en 2025. Ouais. On était à 55 en 2025. Et en 2020, on était à 25 ou un peu plus de 25 milliards. C'est juste
le premier budget de l'État.
Mais oui, donc ça sent le mur, Patrick Bertrand. On n'y est pas encore. Après, ça peut être rassurant de se dire que maintenant la BCE a un peu les coudées franches pour pouvoir intervenir en achat d'obligations publiques.
Il faut pas se réfugier derrière ça, quoi.
Oui. C'est très intéressant. Merci. Donc, on voit bien que la contrainte FMI, on est protégé de la contrainte FMI.
Mais on n'est pas protégé de la tension du crédit.
On n'est pas, voilà, protégé de la contrainte de la BCE. Et Dieu merci. Parce que ça aussi, ça a une des vertus, et particulièrement dans notre pays qui est tellement habitué aux facilités budgétaires. Quand on parlait du mur tout à l'heure, et pourquoi j'étais confiant, c'est parce que effectivement, une partie du risque pour la France, c'est d'être mis sous contrainte par la BCE. Plus ce que vous aviez évoqué sur l'augmentation des taux. Sur ce point-là, d'ailleurs, point d'interrogation sur le fait que l'Allemagne va potentiellement, pour financer son budget de la défense, avoir recours au marché financier. Et il n'est pas impossible, ce marché financier n'étant pas extensible à l'infini, il n'est pas impossible que ça crée des tensions sur les taux. Pourquoi ? Parce que si je suis prêteur, j'ai tendance à vouloir prêter plus facilement à l'Allemagne qu'à la France. C'est une démarche assez classique. Tu es super endetté, tu n'es pas endetté et en plus, tu es excédentaire dans ton budget annuel. Donc, je te prête à toi et donc ça va créer des différences concurrentiel. Donc il y a potentiellement un risque d'écart entre France-Allemagne qui pourrait être très très pénalisant pour la France.
Mais d'ailleurs, il y a juste une chose. Il y a un petit signe qui trompe pas en ce moment, c'est les maturités très longues qui ont du mal à être placées sur les marchés obligataires. Exact. Vous avez peut-être vu au Japon, c'est quand même un signal. Ouais. Le Japon va racheter la dette 20 à 40 ans. L'État japonais va racheter une partie de cette dette-là parce qu'ils arrêtent plus, ils arrivent plus à émettre sur des maturités très longues. Et on a vu aussi une baisse de l'appétit pour la dette américaine sur les émissions très longues, sur le 20 ans américain. Ce qui montre que l'excès d'épargne est en train d'être fini au niveau mondial. Il n'y a plus d'excès d'épargne. Ouais. Que maintenant, on a fini cette époque-là. Et donc, que maintenant, pour les États, pour se refinancer à très long terme, ça devient très, 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 très compliqué. Donc, ça aussi, c'est un signal. Alors, il n'y a pas que la France qui est concernée, mais nous, la France, si on a une perception, bah, ça se paiera par une prime supplémentaire. Voilà. C'est ce qu'on appelle le spread, ouais, hein, l'écart de taux. Voilà. Et donc, aujourd'hui, avec l'Allemagne qui émet beaucoup plus, ça veut dire qu'on va nous demander une prime beaucoup plus forte. Et encore une fois, même si ce n'est pas la catastrophe, même si les marchés nous prêtent, mais si les marchés nous prêtent à 50 centimes de plus, ça veut dire des charges d'intérêt qui vont augmenter et donc moins de flexibilité budgétaire pour le reste, pour payer les retraites, pour payer l'enseignement, pour payer tout ça. Donc, il faut bien comprendre, c'est pas un problème, c'est pas qu'à un moment donné, c'est la chute, c'est pas qu'il y a un mur véritablement, mais à un moment donné, on n'a plus de flexibilité budgétaire et donc ça se paye et ça se paye. Si vous donnez un mauvais enseignement, bah, vous le paierez en productivité dans les années suivantes. Ça se paye parce que, à terme, bah, votre système de retraite sera moins généreux, votre système de santé sera moins généreux. Donc, quelque part, faut pas croire, mais ça se paye.
Ouais, moi, je voudrais faire deux remarques là-dessus. Il y en a une, le sujet de la dette. On a parlé tout à l'heure de la capitalisation, mais je pense que le sujet de la dette, dans l'esprit des Français, en tout cas, pareil, il commence à infuser quand même globalement. Enfin, les gens se disent, oui, il y a un problème. Voilà. Alors, tout le monde n'est pas d'accord sur la manière de le traiter, on est bien d'accord, mais enfin, moi, on est conscient du sujet. Et après, il faudrait qu'on fasse tous attention, parce que dès qu'on dit on va réduire ça, c'est on va réduire l'enseignement, on va réduire la police, machin, etc. Or, on sait très bien qu'on peut avoir le même niveau de service de l'État, si j'ose dire, en réduisant considérablement sur un tas de trucs, et je prends un mot qui n'est pas très joli, j'en conviens, qui ne servent à rien ou qui sont mal gérés. Vous voyez, on va certainement parler de la réduction des fonctionnaires. Donc, tout de suite, on voit dans certains médias, pas sur BFM Business, évidemment, ah bah donc on va avoir moins d'infirmières, on va avoir moins de policiers, donc c'est inacceptable et compagnie. Mais non, c'est pas ça. On va réduire le nombre de postes de fonctionnaires qui, honnêtement, n'ont pas une utilité extrême ou qui ne fournissent pas assez de travail de manière générale. Donc, le fait de réduire, vous voyez ce que je veux dire, le fait de réduire le budget de l'État ne veut pas dire qu'on va réduire, encore une fois, il va plus y avoir d'infirmières. C'est pas ça le raisonnement. Non,
voilà. S'il est vrai que chaque fois qu'on évoque la fonction publique, l'opposition, ah, vous voulez donc moins de profs, voilà, moins de policiers et moins d'infirmiers. Les trois sujets un peu.
Voilà, mais c'est pas ça la réalité des choses. On peut réduire l'État, y compris les collectivités territoriales, avec des postes qui aujourd'hui ne sont pas strictement obligatoires.
Il y a aussi l'histoire.
Au fond, ce que Christian évoque, c'est l'efficacité de la dépense publique.
Comme toujours.
Et qui est rappelée, réévoquée.
Oui, bon, on rabâche, ça c'est clair.
Et les dirigeants d'entreprise, même si, je fais en voulant comparer la gestion d'une entreprise avec la gestion au jour le jour, hein, pas la gestion d'un État au jour le jour des administrations, ce travail n'est pas fait.
Il y a un sujet qui sera peut-être renseigné pour une fois. Alors, il l'a été un peu, mais vraiment, là, de manière sérieuse dans le budget 2026, c'est. Mais on n'a pas assez de temps pour développer le sujet, mais juste pour vous indiquer que les Échos ont mis au jour, genre ce matin, une note de l'IFRAP qui a identifié 7 milliards d'euros d'économies que l'on peut réaliser d'ici à 2029 en fusionnant ou en supprimant des agences et des opérateurs d'État. Par exemple, l'Office national d'études et de recherche aérospatiale pourrait se marier avec l'Institut supérieur de l'aéronautique, le Musée de l'air et de l'espace et le Centre national d'études spatiales, pourquoi pas. Et donc, 7 milliards d'euros d'économies possibles, ça fait partie des éléments qu'Amélie de Montchalin a mis en avant comme étant des éléments fermes définitifs sur lesquels ils avaient décidé de s'attaquer de manière sérieuse.
Les études de l'IFRAP sont quand même en général très pointues, détaillées, avec des chiffres,
alors,
etc.
Quand on va polir, parce que vous savez, vous l'avez dit tout à l'heure, Christian, il y a ce qui est économiquement efficace, plein de choses sont économiquement efficaces. Après, il faut que ce soit politiquement votable et socialement acceptable. Quand on va, est-ce qu'on peut, parce que par exemple, l'IFRAP dit qu'il faut privatiser Météo France, les voies navigables de France, l'audiovisuel public, l'école du Louvre, le musée d'Orsay, l'Opéra de Paris.
Ouais, le musée du Louvre, peut-être pas, effectivement. Mais encore une fois, de toute façon, c'est un ensemble de mesures. Il n'y a pas le bouton sur lequel on va appuyer qui va régler tous les problèmes. Même si les retraites, comme on l'a dit, sont un sujet majeur. Après, c'est un état d'esprit de dire on cherche à réduire les choses. On a parlé du millefeuille administratif, on parle du nombre d'agences de l'État qui sont trop importantes et compagnie. Donc, il y a des choses à faire là-dessus. Et c'est vrai qu'elles n'ont jamais été faites ou de manière totalement à la marge. Quoi.
Mais dans la notion de privatisation aussi, ce qui peut choquer, si on reprend l'exemple du musée du Louvre, dans l'esprit, ça voudrait dire, en gros, la propriété du Louvre en tant que bâtiment et de son contenu serait transféré au privé. Mais il y a des mécaniques qui marchent très bien avec les concessions, les délégations de services publics et qui font en sorte que l'État continue à être stratège, conserve ses actifs stratégiques, en l'occurrence culturels, mais en confie la gestion à des gens qui appliquent les règles de base de la bonne gestion.
Je suppose qu'au sein du Louvre, il y a beaucoup de gens qui sont déjà les sous-traitants, peut-être la sécurité ou tout ça.
C'est dangereux c'est un mot privatisation qui est extrêmement sensible pour l'ensemble de la population.
Vous avez raison, il faut rappeler que les autoroutes, la concession est privée, mais l'asphalte sur lequel vous roulez avec votre voiture est la propriété de l'État. Si ADP est privé, les pistes sur lesquelles atterrissent les avions appartiennent à l'État, qui garde la propriété du foncier. Bon, et effectivement, on ne va pas vendre l'intégralité du contenu du musée du Louvre
à un
milliardaire venu de je ne sais où. Exactement. C'était notre sujet d'ouverture, Christian Parizeau, donc voilà.
C'est notre fermeture.
vous vouliez, et moi ça m'intéresse parce que c'est des évolutions qui m'avaient un peu échappé sur la productivité.
Oui, alors là, c'est parce que c'est super important
la productivité.
C'est un peu pour aller contre l'euro-bashing. Hein. On dit toujours que l'Europe, ça va pas aller tout ça. Alors, c'est du conjoncturel, c'est du très court terme, mais on a quand même des statistiques qui montrent un net redressement de la productivité. Alors, juste un petit mot quand même pour expliquer comment en économie on calcule la productivité. Hein. C'est la croissance du PIB moins le volume de travail. Hein. Ça donne la productivité. C'est comme ça qu'on l'estime en économie. Volume de travail, c'est le nombre de gens qui travaillent fois la durée du travail. Hein. Donc, ça vous donne, c'est vraiment le volume de travail. Donc, si vous avez une forte croissance, comme on a eu au premier trimestre, plus 0,9, révisé en première estimation, on était à 0,3, on a révisé à 0,9.
Zone euro.
Sur l'ensemble de la zone euro. Et derrière la productivité du travail, puisque l'emploi a quasiment stagné, et ben vous êtes aujourd'hui sur une productivité sur un an qui progresse de 0,8% dans la zone euro, soit quasiment le même rythme aujourd'hui qu'aux États-Unis. Donc c'est vrai qu'aux États-Unis, on a eu l'autre effet négatif, on a une contraction du PIB et un emploi qui est resté résilient. Du coup, on a la productivité du travail qui s'est effondrée sur le premier trimestre. Alors juste, c'est une photographie, c'est un instant T, on va me dire que c'est conjoncturel, mais ça vous montre que quand même, il n'y a pas les écarts qu'on voyait. Il y a encore un an ou deux, on disait les États-Unis c'était 3% de croissance. Maintenant, ça a nettement reculé. On est en dessous des deux. On voit que la productivité du travail était négative en Europe et très positive aux États-Unis. Maintenant, on voit que les deux courbes se sont croisées. Et ce qui montre que quand même l'Europe peut se redresser et peut s'améliorer. Donc, il y a eu véritablement un effet Covid qui a beaucoup perturbé nos chiffres de productivité, qui nous a donné une image très défavorable de l'Europe. Sans rentrer dans le détail, mais ça a beaucoup joué dans la perception. Et je pense qu'aujourd'hui, on a sous-estimé la capacité de rebond de l'Europe et notamment des gains de productivité de l'Europe pris globalement. Et on s'aperçoit qu'il y a quand même un vrai redémarrage qui se dessine sur l'Italie, qui se redresse assez sensiblement. L'Allemagne, il va y avoir quand même les effets du plan de relance qui va peut-être améliorer la productivité parce que c'est quand même des investissements publics dans les infrastructures qui devraient avoir des effets positifs. Et derrière, on a aussi l'Espagne, le Portugal qui se portent plutôt bien.
La France,
pour l'instant, je reconnais que conjoncturellement et un petit peu en retard. C'est même un pays où je pense que l'élément clé en France qui nous pose problème, c'est l'immobilier, qui reste toujours très difficile et qu'on a un redémarrage très lent dans l'immobilier. Et ça a plein d'impact, hein, parce que quand vous achetez une maison neuve, vous consommez une cuisine équipée, vous consommez de la décoration, etc. Donc c'est un élément qui stimule énormément la consommation. Et on voit que ça, il y a un vrai problème de l'immobilier repart lentement, mais il repart quand même, mais lentement, et beaucoup plus lentement qu'en Italie, en Espagne ou en Allemagne, où on a des signaux un peu plus positifs. Donc, la France a un vrai problème de redémarrage, mais en tout cas, c'est plus lent, en tout cas en France. Mais juste pour vous dire que dans l'ensemble de la zone euro aujourd'hui, on n'a plus à rougir des États-Unis. Et on s'aperçoit que conjoncturellement, on a bien une amélioration conjoncturelle qui s'opère en Europe. Et donc, ça permet de modérer parce que l'Europe n'a pas de risque inflationniste comme on a aux États-Unis avec la hausse des droits de douane qui bloque complètement la Banque centrale. On voit maintenant les effets de détente de politique monétaire de la BCE qui commence à vraiment porter ses fruits sur la distribution de crédit, sur la reprise économique. Et ce qui nous manque encore, c'est peut-être un peu la confiance des ménages européens pour consommer plus. Ça manque encore un peu, mais j'ai le sentiment qu'il y a quand même des vrais signes d'amélioration. Et puis surtout, on voit maintenant qu'on a de nouveau des coûts salariaux unitaires, c'est-à-dire que coût du travail, hausse du coût du travail, moins les gains de productivité, qui redevient soutenable pour les entreprises. Et ça, c'est un point très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut nourrir une croissance des salaires qui est non pas liée à des aides de l'État, non pas liées à des baisses de charges, mais qui est vraiment liée aux gains de productivité. Et n'oubliez pas que ça, vous n'augmenterez pas le pouvoir d'achat des Européens s'ils n'améliorent pas leur productivité. On ne distribue que de la productivité, sinon c'est un jeu de bonneteau. Hein. Vous savez, la TVA sociale, ça c'est un jeu de bonneteau. Mais si on veut véritablement augmenter votre salaire, gagner en productivité, et ce signal de la productivité en Europe qui se redresse depuis le début d'année est un bon signal quand même pour la zone euro.
La photographie que vous nous faites, qui est plutôt réjouissante, c'est une conséquence notamment de cette guerre commerciale historique lancée par les États-Unis.
La faiblesse, c'est aux États-Unis, c'est clairement l'incertitude de l'administration Trump, hein, qui joue pour beaucoup. Mais l'amélioration conjoncturelle en Europe, je pense, c'est plutôt la fin du choc énergétique. On commence à il y a eu un coup très lourd pour l'Europe hein, de cette choc énergétique, et on commence à voir la fin de ces effets très négatifs que ça a pu avoir sur les secteurs, notamment les secteurs les plus intensifs en énergie qui ont beaucoup souffert. Donc on est sur la fin de ce choc négatif et on est sur une vraie amélioration aujourd'hui la productivité des entreprises. Hein, faut pas le.
Moi ce que je note là,
donc je pense qu'il y a une vraie amélioration.
Christian Poyot.
C'est le mot confiance en fait, parce que OK, on s'améliore un peu en Europe. Alors, il y a moins d'écart par rapport aux États-Unis parce qu'ils ont baissé. Donc, bon, ça, c'est pas tellement réjouissant. Mais ça s'améliore quand même. Mais dans ce que vous avez dit, je pense que c'est effectivement le mot confiance qui est le plus important. Et alors, surtout en France, y compris au niveau, que ça soit les ménages ou les entreprises, est-ce que la situation économique aujourd'hui est vraiment totalement catastrophique? Non, si j'ose dire. Elle est pas bonne. Ça, c'est évident. Hein, tout le monde peut en témoigner. Mais je pense qu'elle est pas bonne parce qu'il y a effectivement ce manque de confiance, restons sous ce terme-là, de dire OK, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que j'investis? Alors, s'y rajoute le paysage politique français qui rajoute de l'incertitude, bien évidemment, mais il y a une frilosité, on va parler des entreprises, à investir avec une vision moyen-long terme parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, etc. Alors, et la confiance, malheureusement, ça ne se décrète pas. Donc, je pense que si on avait ce peps un petit peu, alors je ne sais pas comment l'insuffler, bien sûr, mais de confiance autant des ménages que des entreprises, on repartirait non pas sur un bond d'activité phénoménal, mais quelque chose, je pense, qui serait assez perceptible de manière générale.
Je pense que
ce que je veux dire par là, c'est que je trouve le sous-jacent économique n'est finalement il est correct, on va pas dire autre chose, et on pourrait faire beaucoup plus avec ce soupçon de confiance complémentaire.
Oui, mais je pense qu'on sous-estime aujourd'hui la demande intérieure en Europe qui pourrait repartir très vite. La situation des ménages européens est beaucoup plus saine que les ménages américains. Oui. Les ménages américains qui sont très endettés, crédit à consommation. Je vous rappelle que les ménages américains, ils s'endettent aujourd'hui sur des crédits carte bleue avec des taux d'intérêt à 20%, hein, 21%. Hein. Donc, c'est complètement délirant. Alors qu'en Europe, on n'a pas du tout ce profil-là. On a des ménages qui épargnent, qui ont des niveaux d'épargne qui est au plus haut.
Mais parce qu'ils n'aiment pas le risque. C'est très conjoncturel. Les Américains n'ont pas de peur.
Ça prouve bien que, notamment en Allemagne, ça pourrait repartir, à mon avis, s'il y avait un peu de confiance un peu dans l'économie. On a quand même l'investissement des entreprises européennes qui a été faible pendant plusieurs années, qui pourrait repartir un petit peu aussi, un peu mécaniquement aussi. Et on a quand même les taux d'intérêt qui ont bien baissé. Par rapport aux États-Unis, on voit que la Banque centrale américaine est complètement bloquée par les incertitudes sur l'inflation qui pourrait repartir. C'est pas du tout le cas en Europe. Et donc, moi, je pense qu'on sous-estime la capacité de rebond de la demande intérieure. Ce qui nous biaise en Europe, c'est qu'on regarde toujours l'extérieur. Et c'est vrai que l'environnement international est compliqué. Mais la demande intérieure, je trouve qu'on est dans une situation bien meilleure. Si vous faites une analyse objective de la situation domestique en Europe par rapport à la Chine ou par rapport aux États-Unis, je trouve qu'on est dans une situation qui n'est pas si mauvaise que ça pour les entreprises.
Patrick Bertrand.
Merci beaucoup, Christian, pour ce bol d'air, cet espoir.
Moi, j'ai les conclusions de la fête de New York. Là, c'est juste le contraire de ce que Christian raconte pour les États-Unis.
Hein. Voilà, et retour du terrain, hein, en tant que dirigeant d'entreprise, on rencontre évidemment beaucoup de clients, de fournisseurs, etc. On voit les statistiques aussi de liquidation de sociétés, notamment des toutes petites entreprises aux tribunaux de commerce, l'évolution du taux de chômage. Globalement, est-ce que la variable d'ajustement, c'est ce qu'évoquait Christian Poyot, la confiance? Mais si ce que vous venez d'évoquer, et je pensais très pertinent et concret arrive, ça va peut-être déclencher un sursaut de confiance et donc de
consommation. Vous parlez de la France, Patrick.
Hein. Je parle de la France.
Et si on parlait de la zone euro.
Hein. Oui, parler de la zone euro et à l'intérieur. Voilà. Mais actuellement, dans notre pays, il y a un vrai, quand même, gros sujet économique. À la fois au niveau des entreprises, les collapses, les faillites, et deuxième élément, le sujet du chômage.
Alors, c'est toujours, quand on parle de la zone euro, on dit la zone euro est excédentaire. Enfin, et si on retire les Pays-Bas et l'Allemagne.
Non, mais c'est important quand même ce qui a été évoqué.
Non, mais bien sûr.
Global qui est plutôt positif à beaucoup d'égards. Maintenant, il faut qu'on regarde effectivement chaque pays et qu'on soit en micro. En micro, c'est, on n'est pas encore sorti de cette zone d'incertitude, d'ailleurs, qui a été créée, on peut revenir sur les sujets d'ordre politique, qui a été créée il y a maintenant un an, avec un climat politique qui est totalement déstructuré et qui donne pas confiance.
On a besoin
de repères. Un dirigeant d'entreprise a besoin de repères, il a besoin de stabilité. Et d'ailleurs, d'un certain point de vue, parce que c'est un sujet d'actualité, d'un certain point de vue, la stabilité, ça pourrait être l'année blanche. Surtout, ne votez pas de budget, sauf sur les sujets armés et puis les quelques problèmes de catégories sociales qui sont défavorisés. Mais surtout, bougez plus, parce que nous, dirigeants d'entreprise, on a besoin de visibilité. Et si vous ne faites rien, c'est déjà un élément de visibilité pour nous.
C'est peut-être ce qui va se passer.
C'est terrible ce que je viens d'évoquer, mais c'est une réalité.
Peut-être que c'est le seul sujet où il y aura un peu de consensus politique sur l'histoire de l'année blanche, mais l'année blanche, ça vous oblige quand même à bouger certains postes.
Oui, bien sûr.
C'est pas tous les postes
reconduits.
Vous ne pouvez pas avoir un ONDAM d'assurance maladie.
C'est pas une valeur absolue. C'est un signal, alors pas positif, mais ça va dans le bon sens en tout cas.
Ça marche. Ça, oui. Je peux vous assurer que ça marche.
Ça marche.
Sauf qu'on sera obligé de faire du plus 2 minimum sur l'ONDAM.
Ce qu'il faut, c'est mesurer l'impact sur la consommation. Parce que là on a décrit de manière caricaturale l'état d'esprit des Américains par rapport à l'état d'esprit des Européens. C'est vraiment phénoménal. Il y en a qui sont tout le temps on avance, peu importe, on s'endette à 20%, tout ira bien demain. Ah ben. Et puis en Europe, et notamment en France, où on est en permanence, qu'est-ce qui peut se passer, c'est dangereux, on épargne, on ne sait pas, etc., etc. Donc comment réinsuffler cette vision positive, non pas idiote, hein, mais je veux encore une fois d'espérance sur l'avenir.
Il y a un taux d'épargne aux États-Unis, Christian, je crois, de 2-3% des ménages, un truc comme ça.
Alors attention, ce n'est pas totalement le même taux d'épargne que nous, mais il est à 3,5% hein, dans ces eaux-là, mais c'est un taux d'épargne net. C'est-à-dire qu'on amortit aussi les achats de biens durables qu'on n'a pas en... Donc c'est un taux d'épargne. Donc on ne peut pas comparer le 18 et le 3.
D'accord, il est nettement plus faible quand même.
Mais il est plus faible, on est d'accord là-dessus.
On a 2 minutes. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les négociations Chine-Amérique, là?
Oui.
Il y avait eu un moratoire à Genève de 90 jours, ça s'est tendu après, puis là ils veulent trouver un terrain d'entente sur les exportations et importations de terres rares.
Moi j'ai le sentiment qu'on a une Chine qui est plutôt en position de force. Ça peut paraître étonnant parce qu'on se dit toujours la Chine, ils ont besoin du marché américain, mais on voit que la Chine a trouvé quand même le talon d'Achille des États-Unis. Alors c'est un talon d'Achille qui va pas durer pendant 10 ans puisqu'il y aura une réaction forcément des États-Unis face à ça, mais c'est terres rares. Et ça fait depuis le 4 décembre que la Chine n'exporte plus de terres rares aux États-Unis. On savait qu'aux États-Unis, on avait 6 mois de stock de terres rares, hein, donc on pouvait supporter cet arrêt, cet embargo. C'est un vrai embargo qu'a fait la Chine, un embargo en plus qui a touché d'autres pays, même y compris l'Europe, hein, puisqu'on a vu qu'ils avaient durci énormément les licences vers l'Europe, ce qui bloque, qui commence aussi à gêner quelques industries, notamment automobiles en Europe. On commence à avoir des craintes parce qu'ils voulaient justement bloquer les États-Unis. Et on voit que là, il y a une vraie, ils ont joué une carte maîtresse qu'avait pas du tout vu l'administration Trump. Alors ils ont essayé, Trump a fait des accords avec l'Ukraine, a parlé de prendre le Groenland pour exploiter les terres rares au Groenland, mais tout ça, c'est des réponses à 4-5 ans, hein. C'est pas une réponse à très court terme, et c'est pas en 6 mois que vous allez vous désensibiliser de la Chine.
Les stocks sont mangés,
et je pense que là, la Chine est en position de force, puisque là, dans les dernières revendications chinoises, c'est de dire on veut un accès libre à tout ce qui est technologie américaine. C'est simple, hein. Soit vous produisez de la technologie américaine grâce à nos terres rares et vous nous donnez l'accès, soit on ne vous donne pas les terres rares et vous ne produirez plus un seul bien technologique aux États-Unis. Donc je pense que là, on a vu une Chine qui a très 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 bien manœuvré dans ces négociations.
C'est de la transaction, c'est du troc.
Oui. Non, mais
c'est quelque chose de, enfin, de court terme, on va dire de court, petit, moyen terme.
Bah, bien sûr, parce qu'après, ça incite les gens à développer et à
ne plus dépendre de la Chine. Structurellement, la Chine est quand même en position plus faible que les États-Unis, mais encore une fois, dans une vision moyen-long terme, quoi, par vieillissement de la population.
Voilà. On a fini là, mais sur ces histoires de terres rares, on commence à avoir des remontées très concrètes du terrain avec des usines automobiles qui sont en chômage partiel, notamment Ford à Chicago, à Minneapolis, en chômage partiel, car on est arrivé au terme
des stocks. Donc, rouvrons des usines,
des mines.
Des mines en Europe.
Et pourquoi? Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'électronique dans les voitures.
Vous n'avez pas ces fameux 17...
plus l'électrique.
Ces 17 éléments entrent très largement dans
les aimants, les choses comme ça.
Notamment les aimants. Bon, on a terminé. Merci Patrick Bertrand, Christian Parizeau, Christian Poyot. Et on se retrouve demain à 9h.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.